Je sais pas si vous avez vu, mais la ville de Washington vient d'enregistrer un nouveau pic de cas de coronavirus. Il y a eu 105 cas en une seule journée. C'était lundi. On n'avait pas vu ça depuis 4 mois dans la capitale.
Et pourtant, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans la ville de Washington. Quand on va près des centres de dépistage, il y a toujours beaucoup de monde. En fait, il y a plus de 230 000 résidents qui ont subi un test de dépistage depuis le début de la pandémie. C'est un peu moins du tiers de la population.
Et ce matin, je vous ai donné rendez-vous devant ce qui est sans doute le principal foyer de contamination de la capitale fédérale en ce moment. Elle se dresse juste devant nous, c'est la Maison Blanche. Alors on est face à la pelouse sud. Ce qu'on aperçoit derrière les grilles là-bas, c'est ce qu'on appelle le portique sud. En contrebas, il y a la roseraie et sur la gauche, le bureau ovale. Et donc le lieu le plus important du pouvoir américain est frappé au cœur par le coronavirus. Je crois qu'on est quoi? À une trentaine de personnes infectées à l'intérieur. Il y a le président, mais pas seulement.
Alors, il y a la première dame aussi, Melania.
La porte-parole, Kelly McEnany, des membres de son équipe, certains journalistes aussi qui travaillent à la Maison-Blanche.
Oui, et puis Hope Hicks, la conseillère du président, qui a été la première à être officiellement infecté.
Et ne pas oublier quand même celui qui écrit de nombreux discours du président, Steve Miller, son conseiller ultranationaliste.
Et puis il paraît qu'il y a une drôle d'ambiance en ce moment dans les couloirs de ce palais.
Je ne sais pas si vous avez vu cette photo surréaliste dans le New York Times où il y a un employé qui porte une combinaison, on se croirait presque à Tchernobyl, qui est en train de désinfecter la salle de presse de la Maison Blanche.
Ça donne pas envie d'y retourner.
Oui, il y a beaucoup de personnel d'ailleurs qui ne veulent plus aller travailler en ce moment et qui font très attention. Et il y a donc un Donald Trump qui, en fin de semaine dernière, a révélé être positif au coronavirus, puis a dû être hospitalisé pendant 3 nuits. Séquence complètement hallucinante à moins d'un mois de la présidentielle. On enregistre cet épisode. Nous sommes le jeudi 8 octobre. Il est 10h du matin. Je le précise parce que tout va très vite en ce moment. Avec moi, il y a
Sonia Dridi, RTBF.
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada.
Anne Corpet, RFI.
Et Grégory Philips de France Info. Dans un instant, on rejoindra Raphaël Grand de la RTS qui est quelque part entre l'Arizona et le Texas. La Maison Blanche, foyer de contamination, c'est l'épisode 24 de Washington DC. Bonjour.
Listen to the scientists. Support man. We know it saves lives.
I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it.
Washington, D.C.
This is not an ordinary election.
Alors nous voilà devant cette Maison Blanche, fragilisée, contaminée, malade. On est derrière les grilles, on est quoi 500 mètres, je dirais, du bureau ovale à peu près.
En tout cas, il y a une distance suffisamment sécuritaire. On est à l'extérieur, on a nos masques avec nous.
Et en plus, il y a encore le mur qui avait été érigé au moment des manifestations Black Lives Matter.
D'ici, on voit bien la pelouse sud et puis la zone d'atterrissage pour les hélicoptères Marine One. Et c'est donc d'ici que vendredi dernier, Donald Trump a décollé pour se rendre quelques kilomètres plus loin à Bethesda, en banlieue de Washington, pour gagner l'hôpital militaire Walter Reed. Vous imaginez le branle-bas de combat dans les rédactions américaines et les nôtres. À moins d'un mois de la présidentielle, le 45e président des États-Unis, candidat républicain à sa réélection, malade, hospitalisé. Donald Trump est resté là-bas 3 nuits. Anne, tu étais à Walter Reed au moment où le président a quitté l'hôpital, c'était lundi soir.
Oui, c'était en fin d'après-midi et j'étais pas toute seule. Quelques dizaines, peut-être une centaine de partisans étaient sur place pour ovationner le départ de Marine One. Drapeau, slogan, ambiance de fête pour les supporters de Donald Trump. Sa sortie rapide de l'hôpital était une nouvelle preuve, en fait, s'il en fallait une pour eux, que leur candidat est presque invincible. Écoutez, Greg et Alice que j'ai rencontrés. Alors Greg était habillé comme le président, costume bleu, chemise blanche, cravate rouge. Et alors Alice, elle avait un t-shirt avec cette image, ce photomontage que vous avez sûrement déjà vu, Donald Trump torse nu, hyper musclé, debout sur un char d'assaut. Greg dit que Trump n'aime pas vivre dans la peur et qu'il quitte l'hôpital bien plus fort, dans une forme qu'il n'a jamais eue, et qu'il va utiliser ce moment à son avantage. Il va organiser de superbes meetings et nous allons tous voter pour lui lors des élections, précise-t-il. Et Alice dit...
And you know Donald Trump, he has more energy and strength with COVID than Joe Biden ever did on his best day.
Vous savez, Donald Trump a plus d'énergie et de force maintenant avec le Covid que Joe Biden n'en a jamais eu, même au meilleur de sa forme.
Oui, alors c'est exactement l'image que Donald Trump a tenté de projeter, celle d'un leader fort qui finalement n'est pas resté longtemps à l'hôpital. Moi, j'aimerais revenir sur une scène que j'ai trouvée quand même très marquante et qui reflète bien la confusion qui règne au sein de cette administration. C'est lorsque le médecin de Donald Trump, qui on le sait, est sous les ordres du président, s'est exprimé devant l'hôpital. Alors au départ, il a dit, c'était samedi, que le président avait été diagnostiqué, testé positif 72 heures auparavant. Mais alors là, tout le monde s'est dit, mais c'est très étonnant parce qu'il était à une levée de fonds quelques heures plus tard.
Et à un meeting, ça voulait dire avec cette date-là, il se serait déplacé, aurait rencontré beaucoup de monde en se sachant malade.
Complètement. Et donc, quelques heures plus tard, le médecin publie un communiqué pour dire qu'il voulait dire 48 heures et non pas 72 heures, ce qui est quand même un peu étonnant. Et puis, on apprend aussi quelques heures plus tard qu'il a omis de dire que Donald Trump avait été placé sous assistance respiratoire la veille. Donc, quand même, ça, beaucoup d'observateurs se sont posé des questions et ça reflète encore une fois une administration peu transparente et très confuse.
Très étonnante communication de la part des médecins du président. Anne, devant Walter Reed, juste une question, est-ce que les gens avaient des masques ?
Très peu. En fait, je me disais que l'infection du président allait peut-être entraîner ses partisans à prendre plus de précautions. Ben, c'est raté. Écoutez, Hélène, elle était donc devant Walter Reed et c'est une personne à risque puisqu'elle m'a confié avoir le même âge que le président.
74 ans.
No, I don't wear a mask. You're wearing a mask and I can see it's kind of dirty. It's not doing anything.
Donc elle dit non, je porte pas de masque. Elle fait des réflexions sur la propreté de mon masque au passage. Elle dit que ça ne sert à rien. Vous ne vous protégez pas, vous ne me protégez pas non plus, assure-t-elle. La vie ordinaire doit reprendre. On ne peut laisser aucun gouvernement, aucune autorité imposer le port du masque. Et elle assène, les masques ne sauvent personne.
Alors là on est devant cet hôpital Walter Reed avec, on va dire, des fans du président.
Ah oui.
Sa base électorale, son socle. Évidemment, on a envie de voir aussi comment cette incroyable séquence a été vécue ailleurs, loin du marigot de Washington, pour reprendre une expression tout à fait trumpienne. Raphaël, tu reviens du Kentucky.
Oui, j'étais à Louisville, entre autres avec des militants anti-avortement qui sont tous aussi très favorables au président. Tous les jours, 7 heures le matin, il y a une prière et le jour où je les ai rencontrés, eh bien, ils ont prié pour la rémission du président.
President Trump, pray for the conversion of fallen away Catholics. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus.
Et parmi les gens qui étaient là, il y a Donna qui m'a dit, un peu pour faire écho à ce que les gens t'ont dit à Walter Reed, Anne, qu'à son avis, ça pourrait peut-être même aider le président Trump, ce qui se passait.
I think it will get more votes for him. They'll realize his strength and his devotion to the country.
Donc, selon Donna, ça montre la force de Donald Trump, son dévouement à l'endroit du pays. Mais évidemment, c'est pas tout le monde qui a partagé cette impression. D'ailleurs, il y a des sondages qui ont été publiés par ABC, par CNN, qui montrent que 60, parfois même 70 % des Américains trouvent que Donald Trump n'a pas pris les précautions nécessaires pour protéger sa santé ou encore a agi de manière irresponsable.
Et même au sein de la communauté médicale, il y a de nombreux médecins, dont des médecins à Walter Reed, ont jugé sa conduite complètement irresponsable. Et notamment quand il a fait ce tour en voiture à l'extérieur de l'hôpital.
Oui, alors là, il y a même les Secret Service, donc les agents chargés de la sécurité du président, qui se sont interrogés ouvertement. Et c'est très rare, sur l'exposition de leurs agents qui étaient donc dans un véhicule clos avec le président qui exceptionnellement portait un masque.
Et puis tiens, on va aller encore beaucoup plus à l'ouest, retrouver Raphaël Grand qui se balade, si j'ai bien compris, dans un camping-car quelque part entre l'Arizona et le Texas. On va essayer de l'appeler.
Allô ?
Ouais, Raphaël ?
Salut Grégory,
Salut, c'est Washington DC.
Bonjour tout le monde.
Salut.
T'es où exactement et est-ce que c'est bien le reportage en camping-car?
Moi, je fais ça pendant les vacances.
Alors, le camping-car, c'est sympa. Ça permet un peu de s'arrêter dans des endroits improbables. Là, je suis à Vega. C'est un petit village au nord-ouest du Texas. Et je suis dans un... Vous savez, les RV parks, là, c'est prêt avec plein de camping-cars. Il y a un drapeau Trump 2020 juste à côté de moi. J'ai regardé le débat hier dans un resto juste à côté. Il y avait pas mal de supporters de Trump et pas beaucoup de supporters Biden et Kamala Harris, pour tout vous dire.
Alors, comment est-ce qu'on perçoit dans ce coin du Texas cette séquence d'un président malade et de retour à la Maison-Blanche ? Est-ce qu'on prie aussi pour son rétablissement ?
Bah oui, en fait, jusque dans le sud des États-Unis, en fait, même dans le désert de l'Arizona, il y a des gens qui vous parlent de Trump qui est tombé malade à cause du coronavirus. J'étais à Nogales il y a quelques jours. Vous savez, c'est cette petite ville à la frontière mexicaine. Et il y a une communauté hispanique qui est très importante là-bas. Alors, on aime pas trop Trump, hein. Le président, il avait récolté 25% des voix en 2016. Et on se trouve devant la petite église catholique de Nogales. C'est l'heure de la messe.
I'm praying for Donald Trump. Yes, I am.
I can't believe it. That proves that he's a person like us, you know.
Des gens qui prient pour Trump, ce président qui a parfois séparé des familles avec son mur. J'ai vraiment, vraiment senti de la compassion. C'est pas la côte est ici. Et puis en fait, c'est assez intéressant parce que quand vous parlez avec des latinos d'Arizona, vous savez, l'Arizona, c'est cet État qui risque de passer en main démocrate, de basculer. Il y a un sujet dont on vous parle pratiquement tout le temps, c'est la nomination à la Cour suprême d'une juge conservatrice. J'ai parlé avec Olivia, elle est d'origine mexicaine, elle est contre le mur à la frontière, elle aime pas trop Trump, mais...
Appointing him that new judge, that she is pro-life, that's helping him a lot, and I hope he wins.
Elle explique que Trump a beaucoup de soutien ici parce qu'il a nommé une juge anti-avortement, et ça va l'aider.
Raphaël, il y a une chose dont on parle beaucoup à Washington aussi, c'est ce fameux traitement expérimental qui s'appelle le Regeneron et que Trump a reçu. Il promet aux Américains que bientôt tout le monde pourra être guéri grâce à ça et gratuitement. Quel écho ça a chez toi ?
Bah en fait, tout le monde ne comprend pas ce message du président. À Phoenix, j'ai rencontré Linda.
I think that's really irresponsible for him to say that to people because there are people who still very much listen to him.
Et Linda, elle dit que c'est irresponsable de la part de Trump de dire ça, parce qu'il y a des gens qui vont l'écouter, qui vont peut-être tomber malades, et pas tout le monde n'a accès au même traitement qu'a le président. Et Linda, par exemple, elle n'a pas d'assurance maladie, et elle ne sait pas ce qui pourrait se passer si elle tombe malade, et donc du coup, elle sort le moins possible pour éviter de s'exposer au virus.
Et d'ailleurs, le régénérant, Donald Trump s'est bien gardé de le dire, mais c'est un médicament qui a été créé grâce à des cellules obtenues à l'origine à l'issue d'un avortement. Et l'administration de Donald Trump a réduit les possibilités de ce type de recherche.
Oui, d'ailleurs, ça fait bien sourire l'opposition libérale aux États-Unis.
Et within a very short period of time, they gave me Regeneron. It's called Regeneron. And it was like unbelievable.
La Maison Blanche, fièrement dressée devant nous, mais la Maison Blanche, malade, contaminée, le lieu du pouvoir américain est devenu un cluster.
Foyer de contamination, s'il te plaît.
Merci le Québécois. il y a le président, la première dame, mais pas seulement, des conseillers importants, on l'a dit. Et il semble, Sonia, qu'un événement a joué un rôle très important dans cette propagation. C'était il y a deux semaines, la cérémonie de nomination de la magistrate Amy Coney Barrett, qui est censée remplacer RBG. Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême.
Oui, et là aussi une scène assez hallucinante. Hein. En pleine pandémie, il y a eu cette cérémonie en plein air, certes, mais avec 150 personnes assises côte à côte, pour la grande majorité sans masque. Et depuis, on sait que de nombreuses personnes qui étaient présentes à cette cérémonie ont été infectées par le coronavirus. Je rajoute aussi qu'il y a eu une petite cérémonie à l'intérieur. Alors, parmi ces personnes...
Avec des embrassades.
Voilà, tout à fait. Parmi ces personnes, il y a notamment au moins 3 sénateurs républicains, la porte-parole de la Maison-Blanche, Kayleigh McEnany. Il y a aussi Rona McDaniel, qui dirige le comité national républicain, et j'en passe. Et il y a notamment la conseillère extrêmement proche de Donald Trump, Kellyanne Conway, qui est d'ailleurs sur le départ. Et moi, j'aimerais revenir un petit peu sur la famille Conway.
Tu les aimes bien. Tu nous en parles à chaque épisode.
Je sais, mais à elle seule, finalement, elle mérite un soap opéra, une série, pour planter un petit peu le décor. Kellyanne Conway, donc, est la conseillère de Donald Trump. On en a déjà parlé. Son mari, George Conway, est un anti-Trump, et leur fille, elle aussi est anti-Trump. Elle a dit cet été, par exemple, que Donald Trump était un fucking idiot. Donc voilà, on n'a pas besoin de traduire. Et elle a près de 600 000 followers sur Twitter et des centaines de milliers sur TikTok. Et c'est elle qui a annoncé que sa mère avait été testée positive au coronavirus.
You've caused so much disruption.
Disruption?
You lied about your fucking mother about COVID?
No, Mom.
About COVID?
It's how I interpreted it.
Et là, donc, sans la permission de sa maman, eh bien, elle est en train de la filmer parce qu'elle accuse en plus sa mère d'avoir au départ menti sur le résultat de son test.
Et c'est intéressant qu'on parle de l'importance qu'a pu jouer dans la contamination cet événement pour présenter la candidate à la Cour suprême, Amy Coney Barrett, parce que les audiences pour confirmer sa nomination doivent commencer quoi? Lundi prochain.
Oui, le 12 octobre.
Trois sénateurs républicains qui sont malades. La majorité républicaine au Sénat, elle est assez mince. Est-ce que ça peut avoir
Surtout
un impact?
Il y a deux sénatrices qui ont dit qu'elles étaient hostiles au vote.
Et donc, la question, c'est de savoir si ça peut avoir un impact. En tout cas, Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine, a demandé à tous ses collègues de se présenter au Sénat plus tard ce mois-ci, en personne et en santé.
Sur le fonctionnement de la vie politique aux États-Unis, il y a donc ce que tu viens de mentionner au Congrès. On sait qu'au Pentagone aussi, ça pose des problèmes, ces contaminations.
Oui, il y a des inquiétudes sérieuses, hein, parce que l'amiral Charles Ray, le numéro 2 de l'unité des gardes-côtes, a été déclaré positif peu après avoir assisté à une cérémonie en l'honneur de familles de militaires. Résultat, tous les plus hauts gradés de l'armée, le général Mark Milley, chef d'état-major en premier lieu, sont en quarantaine, ce qui suscite évidemment des inquiétudes sur la vulnérabilité du pays ou sur sa capacité de réaction à des crises majeures sur la scène internationale. D'ailleurs, John Brennan, vous savez, l'ancien patron de la CIA qui est très hostile à Trump, a estimé que c'était une très belle opportunité pour la Chine ou la Russie.
D'un mot, c'est fou d'imaginer qu'un virus puisse pénétrer comme ça, au cœur du pouvoir américain.
Et finalement, c'est pas non plus très étonnant quand on voit le manque de précautions que l'administration Trump a pris.
Et puis évidemment, des conséquences sur cette campagne électorale décidément extraordinaire. Faut-il le rappeler, élection présidentielle et parlementaire le 3 novembre prochain, ça va arriver très vite maintenant. Et donc un candidat républicain qui souhaite donner l'image d'un dur à cuire, prêt à reprendre très vite le chemin de la campagne. Cette séquence, à votre avis, ça peut lui nuire ou ça peut lui profiter ?
Ben moi, j'ai surtout l'impression que c'est une occasion ratée pour le président. Hein. Il aurait pu saisir l'occasion, profiter de sa maladie pour opérer une sorte de revirement en douceur sur le Covid, une sorte de « je vous ai compris » sur les dangers de la maladie et apparaître plus humain. C'est en tout cas ce que pensait Bill, rencontré lui aussi devant Walter Reed.
He was, I believe, doing 2 or 3 rallies a day. So that's affecting his campaign, but this will have a dramatic effect on his campaign in that this will garner publicity, and it will also show a lot of people that he has a human side, that he can be affected too.
Alors Bill dit, avant d'être atteint par le Covid-19, il faisait 2 ou 3 meetings par jour, donc ça a affecté sa campagne, son hospitalisation, mais il estime que toute cette affaire va lui donner une publicité énorme et que ça va montrer à beaucoup de gens son côté humain, ça va montrer que lui aussi peut être affecté. Bon, ben moi j'ai l'impression surtout qu'il a voulu montrer qu'il était au-dessus de tout, qu'il était complètement invincible.
Et ce qu'il faut souligner également, c'est qu'avec tout ce qui s'est passé, eh ben la COVID-19 est revenue à l'avant-plan de cette campagne présidentielle. Et c'est une faiblesse, on le sait, de la campagne républicaine qui aurait préféré parler de Cour suprême, justement, de loi et l'ordre, alors qu'on sait que, notamment dans certaines banlieues où pourrait se jouer la partie dans certains États-clés, eh bien, le coronavirus ne joue pas en faveur du Parti républicain. C'est ce que me disait Katie Paris, que j'ai rencontrée en banlieue de Cleveland, en Ohio.
Those people are left feeling like... These people have no idea what's going on.
Elle dit donc que l'approche des républicains par rapport à la pandémie n'a pas plu non seulement aux démocrates dans son État, mais aussi à certaines personnes qui sont plus modérées et qui aujourd'hui se cherchent des options en vue du vote du 3 novembre.
Et moi, au Texas, j'ai entendu en fait des gens contents que Trump soit coincé à la Maison-Blanche. Ça permet à Mike Pence d'être au front. Et Pence, ici, il y a beaucoup de gens qui le soutiennent. Il a vraiment une vraie cote auprès des électeurs conservateurs. On aime bien son style calme, posé, un peu tout à l'opposé de Trump. Et j'ai entendu beaucoup de bien sur Pence hier pendant le débat, malgré l'épisode de la mouche.
Moi, je pense qu'il faut tout de même pas oublier que il y a une grande partie de la base électorale de Donald Trump qui l'idolâtre complètement et Donald Trump joue sur le fait que voilà, il va pouvoir dire qu'il a terrassé le coronavirus, qu'on peut avoir le coronavirus et continuer de travailler. Et je pense que ça aussi, son côté un peu survivor, ça va plaire survivant, ça va plaire à sa base.
Mais ça va pas permettre d'élargir son électorat.
Bon, bah, tous ces épisodes, cette semaine un peu folle, j'en ai parlé avec John Bolton. Vous le connaissez forcément.
Bien sûr.
Il a été pendant 17 mois le conseiller à la sécurité nationale de Trump. C'est quelqu'un qui connaît très bien le président, le fonctionnement de la Maison-Blanche. Bon, il s'est fait dégagé par Trump sur des désaccords de politique étrangère. Mais je l'ai rencontré, c'était le lendemain de l'annonce par Donald Trump de sa positivité au coronavirus. Et Bolton dit ceci.
Well, I think his conduct of the presidency during the pandemic generally has not been responsible. In the early days, he refused to acknowledge that it was a threat.
John Bolton dit, je pense que sa conduite n'a pas été responsable depuis le premier jour de la pandémie. Il a refusé de voir la menace. Il a refusé aussi de respecter les consignes de prudence, de porter un masque. Et c'est ça qui nous plonge dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et politiquement, explique l'ancien conseiller, c'est compliqué pour Trump maintenant de clamer que cette crise du coronavirus est derrière nous, alors que lui-même a été contaminé.
Very hard for the president to argue that we've turned the corner on coronavirus, everything's going to get better, when he himself has just been diagnosed with it.
Mais ça ne l'a pas empêché d'enlever son masque dès qu'il est rentré de l'hôpital à son arrivée à la Maison Blanche.
Alors, côté démocrate, Sonia, comment la campagne Biden a-t-elle réagi et traité les événements de ces derniers jours ?
Alors au départ, avec beaucoup de retenue, Joe Biden se pose comme le candidat qui peut rassembler la nation, réconcilier la nation. Et donc au départ, il n'a pas du tout attaqué Donald Trump. Au contraire, il a fait suspendre toutes les pubs de campagne, tous les spots de publicité anti-Trump. Et il y a même eu un mémo qui a circulé au sein de la campagne Biden pour demander aux employés de ne pas commenter l'état de santé du président sur les réseaux sociaux.
Ça, c'était au début.
Ils ont envoyé tous des prières et des vœux de prompt.
Voilà, alors ça c'était pour la façade. Et ensuite, lorsque Donald Trump est sorti de l'hôpital et a commencé à multiplier les vidéos de campagne et à s'en prendre aux démocrates, et bien là, Joe Biden est revenu sur le devant de la scène en disant qu'il fallait que Donald Trump écoute les scientifiques, qu'il porte le masque.
Listen to the scientists. Support masks. Support a mask. Mandates nationwide. Require a mask in every federal building and facility. We know it saves lives.
Et puis, loin de moi l'idée de passer pour le conspirationniste du groupe, je vous jure que je ne suis pas chez QAnon. Mais est-ce que tout ça, la maladie de Trump, son retour très rapide à la Maison-Blanche, est-ce que ça pourrait être, mise en scène, inventée?
Ah non, moi franchement, je pense pas. On voit bien à quel point le président déteste être placé en position de faiblesse ou de vulnérabilité.
N'aime pas beaucoup les hôpitaux non plus.
Ouais. Et puis on voit aussi à quel point il trépigne d'être cantonné en quarantaine à la Maison-Blanche. C'est insupportable pour lui de ne pas pouvoir faire campagne sur le terrain.
Oui, moi, ça me semble complètement improbable également, mais c'est vrai que j'ai été assez surprise de voir à quel point beaucoup de gens ont soulevé la question. Moi-même, des amis démocrates m'ont parlé de cette éventualité. Donc, on voit quand même que c'est une théorie qui a circulé aux États-Unis.
Si elle circule, c'est peut-être aussi à cause du manque de transparence sur l'état de santé de Trump. Les communiqués des médecins font 4 à 6 lignes à chaque fois. Ils sont très lapidaires. On ne sait pas grand-chose, en vérité.
Oui, il y a encore beaucoup de questions qui se posent, notamment à propos de la chronologie. Quand Donald Trump a-t-il reçu son dernier diagnostic négatif? On ne le sait toujours pas. Les médecins ne veulent pas le dire. Et puis, il y a aussi toujours des questions sur l'état des poumons du président. Les médecins, là-dessus, sont aussi demeurés évasifs.
Il ne faut pas oublier que les médecins de Walter Reed sont des militaires, et donc ils ne peuvent pas obéir à leur commandant en chef.
The president has continued to improve.
Et d'ailleurs, après la première conférence de presse dont tu parlais tout à l'heure, Sonia, le docteur Conley a expliqué, pour se justifier, qu'il ne voulait pas affecter le moral de son patient, qui évidemment suivait ça à la télévision.
Et puis, le fait qu'on n'arrive pas à le croire et qu'on se pose même la question, moi je trouve que ça démontre le manque de crédibilité de cette Maison-Blanche. C'est très 2020, politique américaine, fait alternatif.
Oui, en tout cas, c'est parfois on a l'impression que c'est tout ça est un peu surréel. On a l'impression d'être dans 24 heures chrono ou dans House of Cards. Et d'ailleurs, le créateur de la série House of Cards, Beau Willimon, dont on a déjà parlé dans ce podcast, a tweeté pour dire que ce type de scénario ne tiendrait même pas 10 secondes dans la writer room, donc là où les scénaristes se retrouvent pour écrire.
La suite de la campagne, Comment est-ce que vous la voyez? Est-ce que Trump va retourner sur le terrain rapidement, à votre avis?
Bah, il en rêve, hein, c'est clair. D'ailleurs, le New York Times a dit hier soir que son équipe envisageait un déplacement dès le début de la semaine prochaine
à Pittsburgh.
En Pennsylvanie, ouais.
Et c'est pas tout le monde, par contre, qui est aussi enthousiaste de voir Donald Trump en personne. Il y a la commission qui organise les débats, qui a dit que ce débat de jeudi prochain qui devait avoir lieu à Miami, en Floride, devrait se tenir de manière virtuelle. C'est-à-dire que les animateurs, modérateurs seraient sur place avec des gens du public qui poseraient des questions, mais les deux candidats seraient à des endroits différents. Une idée à laquelle c'est très rapidement opposé Donald Trump.
Oui, et d'ailleurs, ça s'est déjà fait, un tel débat virtuel. C'était le troisième débat entre Nixon et JFK en 1960. Je voudrais ajouter quelque chose. Moi, je viens d'écouter à la radio, là, en venant ici, la porte-parole républicaine et la porte-parole du Parti démocrate qui débattaient. Et on a l'impression que, de toute manière, jamais les positions vont s'accorder. La porte-parole du Parti républicain disait, vous voyez, on peut être testé tous les jours et quand même avoir le coronavirus. Donc, il faut continuer à ouvrir le pays. Et puis, la démocrate qui disait mais non, c'est invraisemblable, il faut seulement que le président arrête de donner le mauvais exemple en multipliant ses meetings et en ne portant pas le masque.
Voilà, on a essayé de vous apporter brièvement quelques éclairages sur cette situation totalement inédite, celle d'une Maison Blanche qui est juste devant nous là, devenue un foyer de contamination du coronavirus avec toutes les conséquences politiques que cela peut avoir. Vous le savez, jusqu'à l'élection, on va se retrouver tous les vendredis pour ce podcast, ce balado des radios francophones publiques. Vos commentaires, vos réactions sur notre fil Twitter Washington DC. On vous met aussi des photos et des liens vers nos différents reportages. On vous mettra la photo des oies qui nous entouraient sur cette pelouse en début de matinée.
Notre public ce matin.
Elles se sont envolées désormais. Les amis, c'est un plaisir évidemment d'être avec vous chaque semaine. Continuez à porter vos masques, à faire attention et à la semaine prochaine.
Salut.
Au revoir.
Washington DC avec
Anne Corpet, RFI.
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada.
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse.
Sonia Dridi, RTBF.
Grégory Philips, France Info.
Réalisé par
Virginie Gagnon-Leduc.
You got faith in that master, believe that. I got faith in God.
I have faith in God and the master.
Amen.
The master, you should have faith in the master.
No, sir, I don't.
If it was the flood and God sent the helicopter and a boat to save you, maybe you would reject that boat and the helicopter.
Let me tell you something, sir. You know what? If God intended you to have Corona 19, that mask ain't going to stop it, sir. You're going to have it.